Sophie avoue ne pas être une grande mélomane, mais au Rwanda, elle se souvient qu'elle écoutait du Alpha Blondie.
Je pense que la ferveur existe, mais elle est peut-être mise un peu trop en exergue avec nos yeux d'Européens.
Vous avez connu quels catholiques au Rwanda ? Des gens peut-être très pieux, d'autres un peu moins ?
J'ai en image le visage d'une sœur qui, pour moi, rien que de ce qu'elle rayonnait, n'avait pas besoin ni du mot, ni des phrases, ni des dogmes, ni de tout ce qui va avec pour affirmer son catholicisme. J'ai aussi côtoyé des personnes pour qui, ben, effectivement, le catholicisme était plus une voie de sortie qu'autre chose.
Très concrètement, il y avait le couvent des frères, des sœurs, il y avait des échanges un peu entre les deux.
Il y avait énormément d'échanges entre les deux. Donc je pense qu'effectivement, c'est là qu'on voyait que le fait d'appartenir à une congrégation catholique était plus un moyen de vivre qu'une véritable conviction.
Expliquez-nous un petit peu ce qui vous reste comme image forte du Rwanda, de cette expérience qui a duré presque 2 ans.
Inévitablement, la première grosse image forte qui se passe, c'est quand même la façon dont ça s'est terminé sur les événements de 1994.
Vous viviez dans quelles conditions matérielles ?
Des conditions matérielles bien plus simples que ce qu'on peut connaître ici en Suisse, avec des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Mais c'était une vie qui était aussi plus simple. On vivait beaucoup plus au jour le jour.
Expliquez-nous aussi ce qui s'est passé juste avant votre évacuation.
C'était le début des vacances de Pâques. Il y a énormément de familles qui effectivement étaient séparées des parents par rapport aux enfants et des couples qui étaient chacun au bout du pays. Donc effectivement, on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui ne se sont retrouvées qu'au moment où ils étaient en Belgique ou en Europe et qui ne savaient que l'autre était vivant qu'à ce moment-là. À quelques heures près, on se serait retrouvés, mon mari et moi, dans la même situation. Je devais me rendre à Kigali le matin même et mon mari devait me rejoindre 2 jours plus tard. Donc le matin, quand on s'est levé, on m'a annoncé ce qui s'était passé et on m'a fortement déconseillé de bouger, ce que j'ai fait, ce qui nous a permis de pouvoir rester ensemble.
Comment vous avez vécu ce moment-là, cette situation ?
Au moment même, vous êtes dans une espèce de bulle. Déjà, c'est un pays qui est complètement à l'arrêt. Ce qui était difficile, c'est qu'on ne savait pas. On ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce qu'il y avait lieu de faire, si on devait partir, si on ne devait pas partir. On essayait de se renseigner, mais on était un petit peu coupé du monde. Donc, les informations n'arrivaient pas spécialement jusqu'à nous.
Récemment, on a commémoré ce triste anniversaire, 20 ans du génocide. On n'en a pas assez parlé, selon vous ?
Alors, on en a parlé, ça a été très très court. C'est-à-dire qu'on a vite fait d'en reparler, on a vite fait de stopper d'en parler aussi.
C'est regrettable, selon vous ? C'est comme ça ?
Je pense que quand il se passe quelque chose comme il s'est passé là-bas, c'est vraiment important qu'on véhicule ce qui s'est passé là-bas. C'est regrettable dans la mesure où, si ça passe vite, dans 10 ans, ce sera oublié. Et on n'est pas à l'abri du fait que ça peut se reproduire n'importe où ailleurs. C'est un conflit qui a eu une étiquette ethnique, mais les ficelles ont été tirées par des questions politiques et de pouvoir.